Chapitre 10. La petite maison. Ce n'était plus une illusion pour le chevalier. Un jour encore, deux peut-être, il allait falloir se mettre à l'œuvre. Et quelle œuvre ! L'envoyé espagnol avait produit une profonde impression sur Gaston. Il y avait en lui un air de grandeur qui étonnait. Celui-là, Gaston en était sûr, était bien un gentilhomme. Et puis une réminiscence étrange lui passait par l'esprit. Il y avait entre ce front sévère et ses yeux étincelants, et le front pur et le doux yeux d'Hélène, une de ces ressemblances vagues et lointaines qui donnent à la pensée qui s'arrête sur elle l'incohérence d'un songe. Gaston, sans s'en rendre compte, assimilait ces deux figures dans son souvenir et, malgré lui, ne pouvait les séparer. Au moment où il allait se coucher, fatigué des émotions du jour, le pas d'un cheval retentit dans la rue. La porte de l'hôtel du Mouy d'Amour s'ouvrit et Gaston, de son rez-de-chaussée, crut entendre un colloque animé. Mais bientôt la porte se referma, le bruit s'évanouit, Gaston s'endormit comme on s'endort à 25 ans, lors même qu'on est amoureux et conspirateur. Cependant Gaston ne s'était pas trompé. Le cheval entendu avait bien réellement piétiné et henni. Le colloque avait eu lieu, la porte s'était ouverte et refermée. Celui qui arrivait à cette heure était un bon paysan de Rambouillet, à qui une jeune et jolie femme avait donné 2 louis pour porter un billet en toute hâte à monsieur le chevalier Gaston de Chanlay, rue des Bourdonnais, à l'hôtel du Mouy d'Amour. La jeune et jolie femme, nous la connaissons. Tapin prit la lettre, la retourna, la flaira, puis, dénouant le tablier blanc serré autour de sa taille d'hôtelier, il remit la garde de l'hôtel du Mouy d'Amour à son premier cuisinier, qui était un drôle fort intelligent, et courut avec la vitesse de ses 2 longues jambes chez Dubois, qui rentrait aussi de la maison de la rue du Bac. « Oh, dit Dubois, une lettre, voyons cela. » Il décacheta, comme un habile escamoteur, à l'aide d'une vapeur bouillante, l'épître qu'on venait de lui remettre, et en lisant le billet, puis la signature, il éclata d'une joie immodérée. « Bon, excellent, dit-il, et voilà qui marche à merveille. Laissons aller les enfants, ils vont grand train, mais nous tenons la bride, et ils n'iront tant que nous le voudrons. » Puis, se tournant vers le messager, après avoir artistement recacheté l'épître, « Tiens, dit-il, rends cette lettre. » « Quand cela ?» demanda Tapin. « Tout de suite, » dit Dubois. Tapin fit un pas vers la porte. « Non pas, je réfléchis, » reprit Dubois. « Demain matin, ce sera assez tôt. » Maintenant, dit Tapin, en saluant une seconde fois au moment de sortir, « m'est-il permis de faire à monseigneur une observation toute personnelle ?»« Parle, drôle. Comme agent de monseigneur, je gagne 3 écus par jour. » « N'est-ce point assez, ma roufle ? C'est assez comme argent, et je ne me plains pas, mais en vérité, Dieu, ce n'est pas assez comme marchand de vin. Oh, le sot métier ! Bois pour te distraire, Hannibal. Depuis que j'en vends, je déteste le vin. Parce que tu vois comment on le fait, mais bois du champagne, bois du muscat, bois du vin de raisin, s'il en existe, c'est Bourguignon qui paie. » À propos, il a eu une vraie attaque. Aussi, ton mensonge n'est qu'une affaire de chronologie. « Vraiment, monseigneur ? Oui, la peur que tu lui as faite en est la cause. Tu voulais hériter de son fonds, Pandard. Non, ma foi, monseigneur, le métier est trop peu divertissant. Eh bien, j'ajoute 3 écus par jour à ta solde tant que tu le rempliras, et après je te donnerai la boutique pour doter ta fille aînée. Va et apporte-moi souvent des lettres pareilles, tu seras le bienvenu. » Tapin revint à l'hôtel du Mouy d'Amour, du même pas qu'il avait été au palais royal, et comme la chose lui était recommandée, il attendit au lendemain pour remettre la lettre. À 6 heures, Gaston était sur pied. Il faut rendre cette justice à maître Tapin. Aussitôt qu'il entendit du bruit dans la chambre, il entra et remit la lettre à celui à qui elle était adressée. En reconnaissant l'écriture, Gaston rougit et pâlit à la fois. Mais à mesure qu'il lut, ce fut sa pâleur qui augmenta. Tapin faisait mine de ranger et le regardait du coin de l'œil. En effet, la nouvelle était sérieuse. Voici ce que contenait la lettre. « Mon ami, je reviens à votre avis, et peut-être aviez-vous raison. En tout cas, j'ai peur. Une voiture vient d'arriver, Madame Desroches commande le départ. J'ai voulu résister, on m'a enfermé dans ma chambre. Par bonheur, un paysan passe pour faire abreuver son cheval. Je lui remets 2 louis et il promet de porter ce billet chez vous. J'entends faire les derniers préparatifs. Dans 2 heures, nous partirons pour Paris. Une fois arrivé, je vous ferai tenir ma nouvelle adresse. Dussé-je, si l'on me résiste, sauter par une fenêtre. Soyez tranquille, la femme qui vous aime se gardera digne d'elle et de vous. « Ah, c'est cela !» s'écria Gaston en achevant la lettre. « Hélène, je ne m'étais pas trompé. Ah, 8 heures du soir, mon Dieu, mais elle est partie, mais elle est même arrivée. Monsieur Bourguignon, pourquoi ne m'a-t-on pas apporté cette lettre tout de suite ?»«
Son Excellence dormait, et l'on a attendu qu'elle se réveillât, » répondit Tapin avec la plus exquise politesse. Il n'y avait rien à répondre à un homme qui savait si bien vivre. D'ailleurs, Gaston réfléchit qu'en s'emportant, il risquait de révéler son secret. Il contint donc sa colère. Seulement une idée lui vint. Il voulut aller guetter à la barrière l'entrée d'Hélène qui pouvait n'être point encore arrivée à Paris. Il s'habilla donc promptement, accrocha son épée et partit, après avoir dit à Tapin « Au cas où monsieur le capitaine La Jonquière viendrait pour me chercher, dites-lui que je serai de retour vers 9 heures. » Gaston arriva tout en sueur à la barrière. Il n'avait rencontré aucun fiacre et avait fait la course à pied. Pendant qu'il attend, inutilement Hélène, qui était rentrée à Paris à 2 heures du matin, jetons un coup d'œil en arrière. Nous avons vu le régent recevant la lettre de Madame Desroches et renvoyant la réponse par le même messager. En effet, il était urgent de prendre de promptes mesures et de soustraire Hélène aux tentatives de ce monsieur de Livry. Mais que pouvait être ce jeune homme ? Dubois seul saurait le lui dire. Aussi, quand Dubois reparut pour accompagner vers les 5 heures du soir son Altesse royale à la rue du Bac, « Dubois, dit le régent, est-ce que c'est monsieur de Livry de Nantes ?» Dubois se gratta le nez, car il voyait venir le régent. « Livry, dit-il, attendez donc. »«
Oui, Livry. »«
C'est quelque Matignon hanté sur de la province. »
Bon, ceci n'est pas une explication, l'abbé, c'est tout au plus une hypothèse.
Qui connaît cela, Livry, ce n'est pas un nom. Faites venir monsieur Dozier.
Imbécile.
Mais, monseigneur, reprit Dubois, je ne m'occupe pas de généalogie, moi je suis roturier indigne.
C'est bien, assez de niaiseries comme cela.
Diable, monseigneur ne plaisante pas sur les Livry, à ce qu'il paraît. Est-ce qu'il s'agirait de donner l'ordre à quelqu'un de la famille ?
En ce cas, c'est autre chose. Je vais tâcher de vous trouver une belle origine.
Va-t'en au diable, et en y allant, envoie-moi un ossé.
Dubois fit son sourire le plus agréable et sortit. 10 minutes après, la porte s'ouvrit et Nossé parut. C'était un homme de 40 ans, d'ailleurs extrêmement distingué, grand, beau, froid, sec, spirituel et railleur. Un des compagnons, au reste, les plus fidèles et les plus aimés du régent.
« Monseigneur m'a fait demander, dit-il.
Hein, « C'est toi, Nossé, bonjour. »«
Tous mes hommages à Monseigneur, reprit Nossé en s'inclinant. « Puis-je être bon à quelque chose à son Altesse royale ?»«
Oui, prête-moi ta maison du faubourg Saint-Antoine, mais bien vide, bien propre. J'y mettrai des gens à moi. Surtout pas trop galante, entends-tu » ?»«
Pour une prude, Monseigneur ?»«
Oui, Nossé, pour une prude. »
Alors que ne louez-vous une maison en ville, monseigneur? Les maisons du faubourg ont une atroce réputation, je vous en préviens.
La personne que j'y veux mettre ne connaît même pas ces réputations-là, Nossé.
Peste, recevez-en mes compliments bien sincères, monseigneur.
Mais silence, n'est-ce pas, Nossé?
Absolu.
Ni fleurs ni emblèmes, fais-moi décrocher toutes les peintures un peu trop agréables, les trumeaux et les panneaux, comment sont-ils?
Les trumeaux et les panneaux peuvent rester, monseigneur, c'est très décent.
Vrai ?
Oui, vrai, c'est du maintenant tout pur.
Adieu, Nossé, ta main, pas de guet, pas de curiosité, je te le recommande, je t'en prie.
Monseigneur, je pars pour la chasse et ne reviendrai que lorsque votre Excellence royale me rappellera.
Tu es un digne compagnon. Adieu, à demain.
Sûr maintenant d'avoir une maison convenable où la faire descendre, le régent écrivit aussitôt une seconde lettre à la Desroches et lui envoya une berline avec ordre de ramener Hélène après lui avoir lu, sans la lui montrer, la lettre qu'il venait d'écrire. Voici ce que contenait cette lettre. « Ma fille, j'ai réfléchi et je veux vous avoir près de moi. Faites-moi le plaisir de suivre Madame Desroches sans perdre une seconde. À votre arrivée à Paris, vous recevrez de mes nouvelles. Votre père affectionné. » Hélène, à la lecture de cette lettre communiquée par Madame Desroches, résista, pria, pleura, mais cette fois tout fut inutile et force lui fut d'obéir. Ce fut alors qu'elle profita d'un moment de solitude pour écrire à Gaston la lettre que nous avons lue, et pour la faire porter par le paysan à cheval. Puis elle partit, laissant encore une fois avec douleur cette habitation qui lui était chère, parce qu'elle avait cru y retrouver un père et qu'elle y avait reçu son amant. Quant à Gaston, il s'était, comme nous l'avons dit, aussitôt la lettre reçue, empressé de courir à la barrière. Il faisait petit jour quand il y arriva. Plusieurs voitures passèrent, mais aucune ne renfermait Hélène. Et peu à peu, le froid devenait plus vif et l'espoir s'en allait du cœur du jeune homme. Il reprit le chemin de l'hôtel, n'ayant plus d'autre chance que de trouver une lettre à son retour. Comme il traversait le jardin des Tuileries, 8 heures sonnaient. Au même moment, Dubois entrait dans la chambre à coucher du régent, un portefeuille sous le bras et la mine triomphante. « Ah, c'est toi, Dubois, » dit le régent en apercevant son ministre. « Oui, monseigneur, » répondit Dubois en tirant des papiers de son portefeuille. « Eh bien, nos Bretons sont-ils toujours gentils ?»« Qu'est-ce que c'est que ces papiers ?» dit le régent, qui, malgré la conversation de la veille, et peut-être à cause de cette conversation, se sentait une sympathie secrète pour Chanlay. « Oh, rien du tout, » dit Dubois. « D'abord un petit procès-verbal de ce qui s'est passé hier soir entre monsieur le chevalier de Chanlay et son excellence monsieur le duc d'Olivares. » « Tu as donc écouté ?» demanda le régent. « Pardieu, monseigneur, et que vouliez-vous que je fisse ?»« Tu as entendu ?»« Tout. Eh bien, monseigneur, que pensez-vous des prétentions de sa majesté catholique ?»« Je pense qu'on dispose d'elle sans sa participation, peut-être. » « Et le cardinal Alberoni, tu es, monseigneur, comme ce gaillard-là vous manipule l'Europe. »« Fumée que tous ses projets, » reprit le duc, « rêverie que tous ses plans. »« Et notre comité breton, » demanda Dubois, « est-ce aussi de la fumée ?»« Je suis forcé de l'avouer, il existe réellement. »« Et le poignard de notre conspirateur, est-ce aussi une rêverie ?»« Non, je dois même dire qu'il m'a paru assez vigoureusement emmanché. » « Peste, monseigneur, vous vous plaignez, dans l'autre conspiration, de ne trouver que des conspirateurs à l'eau de rose. Eh bien, il me semble que pour cette fois, vous êtes servi à votre guise. Ceux-ci n'y vont pas de main morte. »« Sais-tu, dit le régent tout pensif, que c'est une vigoureuse nature que celle de ce chevalier de Chanlay ?»« Ah bon, il ne vous manquerait plus cela que de vous prendre d'une belle admiration pour ce gaillard-là. Je vous connais, monseigneur, vous en êtes capable. » Pourquoi donc est-ce toujours parmi ses ennemis et jamais parmi ses serviteurs qu'un prince rencontre des âmes de cette trempe ? Ah, monseigneur, parce que la haine est une passion et que le dévouement n'est souvent qu'une bassesse. Mais si monseigneur veut quitter maintenant les hauteurs de la philosophie pour redescendre à un simple travail matériel qui consiste à me donner 2 signatures... « Lesquelles ? » demanda le régent. « D'abord, un capitaine qu'il faut faire major. » Le capitaine La Jonquière? Oh non, celui-là est un drôle que nous ferons pendre en effigie aussitôt que nous n'en aurons plus besoin. Mais en attendant, monseigneur, il faut le ménager. Et qui est ce capitaine? Un brave officier que monseigneur a rencontré il y a 8 jours, ou plutôt il y a 8 nuits, dans une honnête maison de la rue Saint-Honoré. Que veux-tu dire? Je vois bien qu'il faut que j'aide au souvenir de monseigneur. Monseigneur a si peu de mémoire. « Voyons, on parle, drôle, avec toi on ne peut jamais arriver au fait. » Le voici en 2 mots. Monseigneur est sorti, il y a 8 nuits, comme nous disions, déguisé en mousquetaire, par la petite porte de la rue de Richelieu, accompagné de Nocé et de Simiane. Oui, c'est vrai. Et que s'est-il passé, rue Saint-Honoré, voyons. Vous voulez le savoir, monseigneur? Oui, cela me ferait plaisir. Je n'ai rien à refuser à votre Altesse. Mais parle donc, alors! Monseigneur le régent soupait dans cette maison de la rue Saint-Honoré. Toujours avec Nocé et Simiane? Non, en tête à tête, monseigneur. Nocé et Simiane soupaient aussi, mais chacun de son côté. Continue. Monseigneur le régent soupait donc, et l'on en était au dessert, lorsqu'un brave officier, qui se trompait de porte probablement, frappa si obstinément à la sienne que Monseigneur, impatienté, sortit et rudoya quelque peu l'importun qui venait si intempestivement le déranger. L'importun qui était peu endurant de sa nature à ce qu'il paraît, mais l'épée à la main, sur quoi Monseigneur, qui n'y regarde jamais deux fois pour faire une folie, tira galamment sa rapière et prêta le collet à l'officier. Le résultat de ce duel, demanda le régent, fut que Monseigneur attrapa à l'épaule une égratignure, en échange de laquelle il fournit à son adversaire un fort joli coup d'épée qui lui traversa la poitrine. « Mais ce coup d'épée n'est pas dangereux, je l'espère, » demanda avec intérêt le régent. « Non, heureusement, le fer a glissé le long des côtes. Oh, tant mieux. Mais ce n'est pas tout. Comment ? Il paraît que Monseigneur en voulait particulièrement à cet officier. Moi, je ne l'avais jamais vu. Or, comme les princes ont besoin de voir les gens pour leur faire du mal, ils frappent à distance, eux. Que veux-tu dire ? Voyons, achève. Je veux dire que je me suis informé et que cet officier était déjà capitaine depuis 8 ans, lorsqu'à l'avènement au pouvoir de votre Altesse, il a été destitué. S'il a été destitué, c'est qu'il méritait de l'être. Ah, tenez, monseigneur, voilà une idée, c'est de nous faire reconnaître comme infaillible par le pape. Il aura commis quelque lâcheté. C'était un des plus braves soldats de l'armée. Et quelque action indigne alors. C'était le plus honnête homme de la terre. Alors, c'est une injustice à réparer. À merveille, et voilà pourquoi j'avais préparé ce brevet de major. Donne du bois, donne, tu as du bon parfois. Un sourire diabolique rida la face de Dubois, qui, justement en ce moment, tirait de son portefeuille un second papier. Le régent le suivit des yeux avec inquiétude. « Qu'est-ce que ce second papier » demanda-t-il. « Monseigneur, » répondit Dubois, « après une injustice réparée, c'est une justice à faire. »« L'ordre d'arrêter le chevalier Gaston de Chanlay et de le conduire à la Bastille ?» s'écria le régent. « Ah, drôle, je comprends maintenant pourquoi tu m'as léché avec une bonne action. Mais un instant, » dit le duc, « ceci demande réflexion. » « Monseigneur, pense-t-il que je lui propose un abus de pouvoir ?» demanda en riant Dubois. « Non, mais cependant, Monseigneur, continua Dubois en s'animant, quand on a entre les mains le gouvernement d'un royaume, il faut avant toute chose gouverner. » Alors, dit le régent, avec d'autant plus d'impatience qu'il se sentait défendre une noble mais mauvaise cause, « si tu voulais que je fusse sévère, il ne fallait pas provoquer une entrevue entre moi et ce jeune homme, il ne fallait pas me mettre à même de l'apprécier à sa valeur, il fallait me laisser croire que c'était un conspirateur vulgaire. » « Oui, et maintenant, parce qu'il s'est présenté à votre Altesse sous une enveloppe romanesque, voilà votre imagination d'artiste qui bat la campagne. Que diable, monseigneur, il y a un temps pour tout. Faites de la chimie avec Imbert, faites de la gravure avec Audran, faites de la musique avec Lafare, faites l'amour avec le monde entier, mais avec moi, faites de la politique. » « Eh, mon Dieu !» s'écria le régent, « ma vie espionnée, torturée, calomniée comme elle l'est, vaut-elle donc la peine que je la défende ?»« Mais ce n'est pas votre vie que vous défendez, monseigneur. Au milieu de toutes les calomnies qui vous poursuivent, et contre lesquelles, Dieu merci, vous devriez être cuirassé maintenant, l'accusation de lâcheté est la seule que vos plus cruels ennemis n'ont pas même tenté de jeter sur vous. Votre vie, à Steinkerk, à Neruind, à Lerinda, vous avez prouvé le cas que vous en faisiez. Votre vie, par Dieu, si vous étiez un simple particulier, un ministre ou même un prince de sang, et qu'un assassinat vous l'a repris, ce serait le cœur d'un homme qui cesserait de battre, et voilà tout. Mais, à tort ou à raison, vous avez voulu occuper votre place parmi les puissants du monde. À cet effet, vous avez brisé le testament de Louis XIV, vous avez chassé les bâtards du trône, où ils avaient déjà mis le pied, et vous vous êtes fait régent de France, enfin, c'est-à-dire la clé de voûte du monde. Vous tuez, ce n'est pas un homme qui tombe, c'est le pilier qui soutenait l'édifice européen qui s'écroule. Alors, l'œuvre laborieuse de nos 4 années de veilles et de luttes est détruite, tout s'ébranle autour de nous. Jetez les yeux sur l'Angleterre, le chevalier de Saint-Georges va y renouveler les folles entreprises du prétendant. Jetez les yeux sur la Hollande. La Prusse, la Suède et la Russie en font une vaste curée. Jetez les yeux sur l'Autriche. Son aigle à deux têtes tire à elle Venise et Milan pour s'indemniser de la perte de l'Espagne. Jetez les yeux sur la France, et la France n'est plus la France, mais la vassale de Philippe V. Enfin, jetez les yeux sur Louis XV, c'est-à-dire sur le dernier rejeton, ou plutôt le dernier débris du plus grand règne qui ait illuminé le monde, et l'enfant qu'à force de surveillance et de soins nous avons arraché au sort de son père, de sa mère et de ses oncles pour le faire asseoir sain et sauf sur le trône de ses ancêtres, cet enfant retombe aux mains de ceux qu'une loi adultère appelle effrontément à lui succéder. Aussi, de tous côtés, meurtre, désolation, ruine et incendie, guerre civile et guerre étrangère, et pourquoi cela? Parce qu'il plaît à Monseigneur Philippe d'Orléans de se croire toujours major de la maison du roi ou commandant de l'armée d'Espagne et d'oublier qu'il a cessé d'être tout cela le jour où il est devenu régent de France. « Tu le veux donc ?» s'écria le régent en prenant une plume. « Un instant, Monseigneur dit Dubois, il ne sera pas dit que dans une affaire de cette importance vous aurez cédé à mes obsessions. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant je vous laisse seul. Faites ce que vous voudrez. Je vous laisse ce papier. J'ai quelques ordres à donner de mon côté et dans un quart d'heure je reviendrai le prendre. » Et Dubois, à la hauteur cette fois de la situation où il se trouvait, salua le régent et sortit. Resté seul, le duc tomba dans une profonde rêverie. « Oui, murmura-t-il, Dubois a raison, fil a dit vrai, et ma vie, qu'à chaque heure je joue sur un coup de dé, a cessé de m'appartenir. Hier encore, ma mère me disait ce qu'il vient de me dire aujourd'hui. Qui sait ce qui arriverait du monde entier si j'allais mourir, ce qui est arrivé à la mort de mon aïeul Henri IV, pardieu. Après avoir reconquis pied à pied son royaume, il allait, grâce à 10 ans de paix, d'économie et de popularité, ajouter à la France l'Alsace, la Lorraine et les Flandres peut-être, tandis que, descendant les Alpes, le duc de Savoie, devenu son gendre, allait se tailler un royaume dans le Milanais et, des rognures de ce royaume, enrichir la République de Venise et fortifier les ducs de Modène, de Florence et de Mantoue. Dès lors, la France se trouvait à la tête du mouvement européen, tout était prêt pour cet immense résultat, couvé pendant toute la vie d'un roi, législateur et soldat. Ce fut alors que le 13 mai arriva, qu'une voiture à la livrée royale passa à rue de la Ferronnerie et que 3 heures sonnèrent à l'horloge des innocents. En une seconde, tout fut détruit, prospérité passée, espérance à venir. Il fallut un siècle tout entier, un ministre qui s'appela Richelieu et un roi qui s'appela Louis XIV, pour cicatriser au flanc de la France la blessure qui avait faite le couteau de Ravaillac. « Oui, Dubois a raison. Dubois a raison !» s'écria le duc en s'animant. « Je dois abandonner le jeune homme à la justice humaine. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le condamne. Les juges sont là et décideront. » Et puis, ajouta-t-il en souriant, n'ai-je pas toujours mon droit de grâce? Et, rassuré intérieurement par cette prérogative royale qu'il exerçait au nom de Louis XV, il signa vivement.